Dis, puisque tu es avec nous, on va directement enchaîner sur notre interview. Alors, tu es partie des chroniqueurs de l'émission. On rappelle d'ailleurs à chaque fois que tu es l'auteur du blog BD Grisbouille. Tu as déjà participé à des sujets longs. Tu en as même préparé un sur Aaron Schwartz. Sans doute que les personnes qui nous écoutent te connaissent donc maintenant assez bien, mais peut-être que ça vaut quand même le coup que tu prennes la peine de te présenter et notamment que tu nous dises peut-être le choix professionnel que tu as fait maintenant il y a un peu plus d'un an. Voilà, ou qui te permet aussi de venir nous proposer des chroniques et qui t'a permis de produire ton premier jeu vidéo.
Ça fait même quasiment 2 ans maintenant.
Quasiment 2 ans, Mathieu.
Ouais, donc moi, je suis développeur informatique de formation. Enfin, je suis même docteur en informatique. J'aime bien dire conventionné 42, parce que quand les gens demandent y a-t-il un docteur dans la salle, oui, mais pas en médecine. Et il y a 2 ans de ça, en fait, j'ai décidé de quitter mon boulot pour faire auteur à plein temps, parce que ça fait maintenant, ça fait presque 14 ans, je crois, que j'ai commencé à faire de la BD sur Internet. À l'époque, c'était le dictionnaire. Bah oui, je parlais du fait que j'étais tombé dans la marmite en 2009, c'est ça, donc 14 ans. Et c'était après le Covid, en fait, où, comme un peu tous les gens comme moi qui avaient un boulot en télétravail et relativement bien payé, puisque moi j'étais ingénieur en informatique, j'avais mis pas mal de sous de côté et je me suis rendu compte que j'aimais bien ne plus me faire 1 heure de bouchon tous les matins et tous les soirs. Et que finalement, ce mode de travail me plaisait bien. Et comme j'avais pas mal d'épargne, je me suis dit, si c'est peut-être le meilleur moment pour tester ça, comme ça je sais que j'ai un filet de sécurité et que si jamais ça marche pas, parce que auteur, c'est sympa, mais c'est très dur de dégager un revenu avec, je me suis dit, je prends pas trop de risques. Ce projet, donc Superflu Returns, donc, qui est un jeu vidéo, c'est un peu c'est ce que je disais dans l'article que j'ai publié hier pour présenter le jeu. C'est la première fois en fait que je mets vraiment toutes mes compétences au service d'un unique projet, puisque il y a une grosse part de programmation, il y a beaucoup d'écriture parce que c'est un jeu vidéo d'aventure, donc avec beaucoup de dialogues, tout ça. J'ai fait tous les graphismes aussi, j'ai aussi fait la musique parce que je fais de la musique, et voilà. Et le fait d'avoir tout fait comme ça, alors c'était fatigant, mais c'est aussi extrêmement satisfaisant, quoi, sur la fin.
Entendu. Donc là, je pense que tu as déjà dressé un beau portrait général de ce qu'est Superflu Returns. Bon, la première question, et je pense que je ne suis pas le seul à me la poser, c'est comment est-ce que ça se prononce? Est-ce qu'il faut probablement prendre son bon gros accent français, Superflu ouais. Returns?
C'est exactement ça. J'ai mis du temps avant de trouver un titre, hein, parce que techniquement, c'est la suite d'une BD que j'avais publiée il y a quelques années qui s'appelle Superflu, enfin Les Aventures Inutiles de Superflu, qui est donc un super-héros qui ne sert à rien, comme son nom l'indique. Et quand j'ai fait ce jeu, je me posais la question. Alors au début, c'était Superflu le jeu ou des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faudrait à la fois donner la sensation que c'est une suite de super-héros, et en même temps, je veux pas que les gens qui ont pas lu la BD n'aient pas envie d'y jouer, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir lu la BD pour y jouer. C'est, bon, c'est le même univers, mais c'est pas complètement lié. Et c'est vrai que du coup, t'as pas mal de films comme ça. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Batman Returns, qui en français a été traduit par Batman le défi, parce que bon, on aime bien
on aime bien traduire différemment.
Voilà. Et je me suis dit, du coup, Superflu Returns, mais en le prononçant vraiment à la française, c'est-à-dire allons-y complètement, et je l'ai écrit du coup en phonétique, hein, donc parce que là on est à la radio, mais ça s'écrit Returns, donc Returns, vraiment. Et j'en ai fait une version anglaise pour laquelle, du coup, je l'ai appelé donc Superfluous, parce que la traduction de Superflu existe en anglais et c'est Superfluous, donc c'est pratique parce que ça fait aussi nom de super-héros. Et j'ai juste mis Returns avec un Z à la fin. Je me suis dit, voilà, on garde l'aspect un peu idiot, quoi, du personnage avec cette façon de prononcer. Bon, sauf que cette fois, c'est le mot anglais, quoi, Return.
Donc, tu as commencé. Alors, il est sorti le 12 mai, on peut peut-être
le
déjà.
15,
le 15 mai, d'accord, ok. Non, le 12 mai, c'est un autre jeu, effectivement, qui est sorti. Zelda, voilà, pour le nommer, sur lequel je n'ai personnellement pas encore passé plusieurs heures, mais je pense que ça viendra plus tard dans l'année. Donc, tu as dit que c'était un jeu d'aventure qui se passe la campagne profonde française, si j'ai bien suivi.
C'est ça.
Il n'y a pas besoin d'avoir lu la BD. Est-ce qu'il y a quand même peut-être des pour les personnes qui ont déjà lu la BD, il y aura des clins d'œil vers
effectivement, notamment au niveau des personnages. Donc bon, il y a Superflu donc qui est le héros. Encore que, est-ce que c'est vraiment le héros? En tout cas, c'est le personnage central. Celle qui serait plutôt l'héroïne, en fait, c'est un personnage féminin qui s'appelle Sophie, et qui est l'assistante de vie, en fait, de Superflu. Alors, la BD, justement, commence comme ça, en fait, c'est-à-dire qu'elle arrive dans ce grand manoir, parce que c'est un milliardaire, où elle est envoyée par Pôle emploi, donc elle est assistante de vie, elle cherche du boulot. Assistante de vie, c'est pas un boulot facile. Et là, elle se rend compte qu'en fait, ce type-là a embauché une assistante de vie, mais pour jouer le rôle de Alfred, en fait, dans Batman, c'est-à-dire pour être son assistante de super-héros. Et donc, elle comprend qu'elle va devoir supporter les idioties de son employeur. Donc, ces deux personnages-là reviennent. D'ailleurs, au départ, on contrôle Sophie. En fait, au fil de l'aventure, on va contrôler soit l'un, soit l'autre. Et il y a d'autres personnages qui reviennent, le méchant par exemple, qui est un petit adolescent un peu teigneux, qui s'appelle, dont le nom de super méchant est superficiel, donc il est très superficiel, hein, comme certains adolescents. Et puis voilà, après je sais plus, il y a le capitaine aussi de la gendarmerie, parce que c'est un petit village, mais il y a quand même une petite gendarmerie avec un capitaine qui forcément est le représentant de la loi officielle, et qui donc... passe son temps à expliquer à Superflu que non, il n'a pas le droit d'aller tabasser les super méchants, surtout quand les super méchants sont des adolescents qui n'ont pas fait grand chose.
Alors comment ça se passe le jeu? Je crois que c'est un point and click, et je vais te laisser peut-être expliquer ce qu'est ce type de jeu.
Ouais, c'est, alors je sais pas si, je crois que la traduction française c'est pointer et cliquer tout bêtement, mais ça se dit pas trop. Point and click, c'est un type de jeu qui a été très populaire dans les années 90. C'était, il y a une boîte qui s'appelait LucasArts, donc qui était la boîte de George Lucas, mais pour les jeux vidéo, qui avait sorti pas mal de jeux qui sont devenus très très populaires et qui sont un peu cultes aujourd'hui. Donc les plus connus, je pense que c'est Monkey Island, Day of the Tentacle, moi c'était un que j'aimais beaucoup. Il y en a eu un qui était génial, qui était tiré d'Indiana Jones, que beaucoup de gens considèrent comme le vrai Indiana Jones 4 à la place du film, parce que c'était vraiment un super jeu. C'était Indiana Jones et le mystère de l'Atlantide, excellent. Et c'est des jeux en fait qui se jouent complètement à la souris. Alors même si moi j'ai fait d'autres modes, je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais l'idée c'est que vous êtes sur une scène et vous avez des objets sur lesquels vous pouvez cliquer, vous pouvez prendre des objets, vous pouvez combiner des objets, vous pouvez parler avec des gens, avec des dialogues, vous avez des choix, le choix de ce que vous allez dire qui déclenche certains événements. Et en fait, vraiment tout le jeu se passe juste comme ça. Et moi, dans les choses que j'aimais bien dans les LucasArts, c'est que j'ai repris, il y a deux choses principales. Déjà, il y a l'humour, parce que c'était des jeux qui étaient la plupart du temps assez marrants, à part peut-être le Indiana Jones, justement, qui était plus sérieux. Donc ça, bon, étant donné que moi, je suis plutôt un auteur humoristique, et notamment sur les bandes dessinées, c'était logique, mais voilà, j'ai pris ça. C'est pour ça que j'ai pris aussi le personnage de Superflu, qui s'y prêtait bien, je trouvais. Et l'autre chose qui est pas mal, c'est qu'en fait, c'est des jeux qui sont très tranquilles, c'est-à-dire que c'est des jeux où on peut pas perdre, on peut pas mourir. Et on peut pas rester coincé, parce qu'il y a eu des jeux d'aventure comme ça où on prenait des objets, et en fait, quand tu arrivais à la fin, t'avais besoin d'un objet qu'il fallait prendre au niveau 2, mais bah tu l'avais pas, et du coup t'étais coincé. Et LucasArts ont toujours, très vite, mis un point d'honneur à ce que les jeux, ce genre de choses n'arrivent pas. C'est assez simple à faire, c'est juste au moment de designer les différentes énigmes, bah, il faut faire en sorte qu'on soit sûr qu'au moment A, vous avez vraiment tous les objets dont vous avez besoin. Et du coup, la seule difficulté, puisqu'on peut pas mourir, on peut pas perdre, on peut pas être coincé, bah, elle est juste dans la résolution des énigmes. En fait, on peut vraiment des fois rester bloqué des plombes parce qu'on comprend pas ce qu'il faut faire, ou on a compris mais on a loupé une subtilité. Mais par contre, sinon, à part ça, je trouve que c'est des jeux tranquilles. C'est vraiment des jeux auxquels on peut jouer en buvant un café, quoi. C'est pas des jeux où il faut tirer partout, où il faut avoir des réflexes, quoi.
Et qui permettent, j'imagine, de bien développer aussi un univers que t'avais envie de pouvoir étoffer. Ouais,
ouais, c'est ça. Et c'est quelque chose que j'avais dit. Alors, ça fait un peu mec qui se jette des fleurs, hein, mais... En fait, il y a quelques temps, j'étais en plein dans le développement, et il y a certains niveaux que j'avais écrits il y a des mois, en fait, hein, parce que je suis passé 3 ans et demi dessus, hein, en tout. Et où j'avais écrit notamment plein de dialogues, parce que ça, c'est un truc qui prend du temps, mais comme vous avez des dialogues, vous avez des choix. En fait, tous les choix mènent à des branches de dialogues différentes, et il faut, mine de rien, il faut écrire un paquet de trucs. Et du coup, j'avais fini des niveaux où j'avais enfin créé les graphismes des niveaux que j'avais écrits il y a des mois, et en fait, au moment où je le teste, du coup, je lance le dialogue et je m'en souvenais plus, mais je me suis fait marrer tout seul en relisant les dialogues. En fait, je disais ce truc, je suis con quand même. Et voilà. Et du coup, oui, c'est quelque chose que j'ai dit en fait quand j'ai fait la promotion du jeu. Mais je pense que je suis fier de tout ce que j'ai fait dans le jeu. Mais je pense que la partie la plus drôle, et les gens qui l'ont testé, je pense, sont d'accord, c'est les dialogues. Je pense que les dialogues, c'est probablement ce qu'il y a de mieux dans le jeu. Et donc, oui, ça permet de vraiment développer notamment les relations entre les personnages, et le fait que Sophie est là parce que c'est une salariée et qu'elle choisit pas ses tâches, comme à peu près tous les salariés.
Du coup, c'est ce que on sait, voilà, t'as une sensibilité politique assez marquée. Ouais. Elle se ressent dans le jeu pour toi? Est-ce que tu as voulu qu'il y ait cette
un petit peu? Alors c'est marrant parce que Superflu, c'était pas forcément la partie la plus politique dans ce que je faisais, parce que c'était vraiment l'humour absurde du super-héros. Mais le fait qu'il soit milliardaire et qu'il emploie sa fortune à faire des bêtises comme ça, forcément, il y a un moment où t'es obligé de politiser un peu le truc. Donc, oui, il y a ce que j'appellerais l'humour de gauche, c'est-à-dire que celui qui est toujours le dindon de la force, c'est toujours lui, c'est toujours le riche. Et on lui rappelle assez régulièrement qu'il a vraiment rien d'autre à foutre de son pognon et qu'il est vraiment inutile, comme son nom l'indique, quoi.
Alors tu as dit, hein, tu me l'as dit, tu as fait le dessin, la musique, c'est toi qui as développé le code, ainsi de suite. C'était quoi pour toi le plus grand défi dans tout ce travail de conception ?
Alors,
ça peut être un truc très précis, hein, sur un truc que t'as.
Alors en fait, déjà de faire au niveau du code, en fait, c'était de faire un logiciel aussi abouti qui fonctionne bien, sans bug, tout ça. Parce que moi, j'étais développeur professionnel, donc je bossais sur des logiciels professionnels, mais moi, je bossais sur des morceaux, quoi. Hein, quand on a un gros logiciel, on a beaucoup de monde qui bosse dessus. Faire quelque chose en entier comme ça, c'était un peu un défi. Après, ce qui m'a pris finalement le plus de temps, je pense que c'est les graphismes, et notamment les animations. Parce que les animations, je les fais à la main, un peu à l'ancienne en fait, même si je fais des copier-coller, il y a des choses qui bougent, voilà, on a quand même des bons outils pour faire ça. Mais c'est vrai que je les fais, c'est du 12 images par seconde comme les Looney Tunes. Hein. Et ça, c'est pas tant que c'était dur, mais c'était long. Et y avait, même si, et le jeu est pas si long finalement, il se finit entre 4 et 6 heures selon les gens qui l'ont bêta-testé. Mais voilà, des fois, je me souviens à un moment, j'avais passé comme ça 4 heures comme ça toute une après-midi sur une animation, et à la fin je fais, ah, elle est super jolie mon animation, je la joue, et elle faisait 5 secondes, quoi. Et ouais, c'est un petit peu, c'est pas frustrant parce qu'à la fin moi j'étais super fier du résultat, mais c'est long, quoi.
C'est pour ça qu'en général les gens ne font pas des jeux vidéo tout seul, mais voilà, c'est grandes équipes. Alors le temps avance, mais il y a quand même aussi une question importante. Tu publies beaucoup de créations sous licence libre. Pour ce jeu, je pense que tu t'es posé la question, t'as arrivé à une conclusion, pour moi. Enfin, tu vas rentrer dans les détails, mais pour le moment, c'est pas tout à fait un logiciel libre, même s'il y a des parties qui le sont. Et je crois que tu as l'intention, dans un temps plus tard, de le rendre libre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu?
Ouais, alors au départ, je comptais en faire un logiciel libre. En fait, c'est vrai que tout ce que je publie depuis que je suis sur Internet est sous licence libre, il n'y a vraiment pas d'exception. Et c'est vrai que c'est la première exception. En fait, honnêtement, ça, c'est venu d'une peur, on va dire. C'est que je disais tout à l'heure que voilà, j'étais devenu auteur à 100% en essayant d'en dégager un revenu. Le fait est que ça va faire 2 ans et que pour le moment je suis toujours en train de creuser dans mon épargne et qu'elle n'est pas infinie, donc plus je creuse et plus je vois le fond qui se rapproche. Et c'est vrai que je compte beaucoup en fait sur ce jeu pour éventuellement apporter un revenu, parce que sinon c'est vrai que je vends, bon, j'ai du financement participatif qui me rapporte un petit peu, ça c'est pas mal, et sinon le seul truc que je vends vraiment c'est des bouquins, mais les bouquins ça se vend finalement assez peu. Et je me suis dit qu'un jeu vidéo, ça pouvait peut-être se vendre plus facilement. Et il y avait ce truc de se dire, ouais, mais du coup, si le jeu vidéo est sous licence libre, même si moi, j'en fournis pas d'exécutable compilé, parce que au départ, je m'étais dit ça, au pire, je donne les sources, mais je le compile pas. Bon, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui le compile et qui le mette en ligne, et le jeu est disponible gratuitement pour tout le monde. Et j'avais vraiment peur, en fait, de cet effet où, finalement, la plupart des gens, d'autant plus les gens qui me connaissent, sont la plupart du temps des gens du logiciel libre, et du coup connaissent ce genre de mécanisme de licence libre. Il y en a pas mal qui savent compiler. Je me dis, bon, il y en aura beaucoup en fait qui vont juste pas l'acheter et qui vont juste profiter de la version libre qui sera gratuite. Et c'est vrai que c'est un peu cette peur qui m'a poussé à me dire, non, bon, en fait, du coup, les données pour le moment seront pas libres. Alors, le moteur est toujours libre, c'est-à-dire que si vous achetez le jeu, vous avez les données. Vous pouvez recompiler le jeu, vérifier que je mine pas de Bitcoin sur votre ordi avec le code source. Mais les données, c'est vrai qu'elles sont pas disponibles librement. C'est une entorse. Du coup, je me suis dit, bon, elles seront libérées sous licence libre plus tard. Donc, alors, j'ai pas donné de date, mais raisonnablement, je pense que ce sera à la fin de l'année. Fin de l'année 2023, donc je pense honnêtement, c'est pas arrêté, mais je pense que ce sera mon cadeau de Noël. Avec la réflexion qui est soit le jeu a bien marché, et dans ce cas-là, bon, je peux libérer les données, soit il a pas marché, et dans ce cas-là, de toute façon, je pourrais plus compter dessus pour. Enfin, faudra que je trouve une autre source de revenus qu'être auteur, donc la question se posera différemment. Donc voilà.
Donc si, on peut aussi appeler déjà pour les personnes qui te suivent, qui écoutent tes chroniques, qui vont lire ton blog BD, c'est aussi une manière de te soutenir que d'aller acheter ce jeu.
Bien sûr.
Où est-ce qu'on peut l'acheter et sur quelle plateforme est-ce qu'on peut y jouer ?
Alors, on peut l'acheter pour le moment sur Steam et sur itch.io. Donc Steam, c'est un peu le géant du marché, donc c'est la plupart des gamers, on va dire, se trouvent sur ce site. Et Itch, c'est un site qui est un peu moins connu et qui est un peu plus dédié aux jeux vidéo indépendants. Du coup, il est un peu moins bien fait aussi, notamment il n'y a pas de possibilité de mettre des traductions. Donc si vous allez sur Itch, vous allez avoir une page en anglais avec des prix en dollars. Mais sachez que le jeu, vous aurez quand même accès à la version française si vous l'achetez là-dessus, il n'y a pas de souci. Plus tard, il sera sur Google Play. Là, pour le moment, il est en cours de validation par Google. Alors oui, ça, je sais, ça me fait un peu mal de me dire que je vais chez Google. Voilà. Mais c'est pour pouvoir distribuer une version Android un peu plus facilement. Et donc, ce qui m'amène du coup à la suite de la réponse. Donc, en termes de plateforme, évidemment, il est sur Linux parce que moi, j'ai développé là-dessus. Donc, je pense que c'est un des rares jeux dont la première version était sur Linux. Après Windows et Mac, Android. Sachant que si vous l'achetez sur itch.io, vous avez quand même accès à la version Android, ce qui peut être sympa si vous voulez ne pas passer par Google Play. C'est juste que là, il faudra l'installer séparément. Donc vous aurez le warning de Google. Attention, c'est dangereux d'installer des applications non vérifiées. Mais voilà, vous pouvez. Et voilà. Alors théoriquement, je devrais pouvoir en faire une version iPhone, mais j'avoue que je ne me suis pas penché dessus. Normalement, ça ne doit pas être très différent d'une version Mac. Et idéalement, j'aimerais bien faire une version pour la Nintendo Switch. Parce que je sais que la SDL, qui est la bibliothèque libre que j'ai utilisée pour faire ça, est porté sur Switch, donc c'est possible. Par contre, Nintendo, en termes de fermeture, c'est pire que Apple. Hein. C'est-à-dire qu'eux, il faut faire un dossier en expliquant est-ce que j'en ai déjà vendu, est-ce que je suis... Enfin, bon, ils veulent être sûrs qu'en gros, votre jeu, il serve à quelque chose avant de le mettre sur leur store et avant de vous donner accès au kit de développement. Donc, je vais attendre un peu, mais si le jeu se vend pas mal, je pense que je ferai un dossier Nintendo pour essayer de le mettre sur Switch. J'ai fait un mode manette qui marche plutôt pas mal, donc voilà.
Entendu. Dernière peut-être question qui est très rapide, parce qu'on, c'est pour quel, pour tout, on peut y jouer à partir de quel âge? Par rapport à l'humour, on sait que peut-être qu'il peut être à plus ou moins adapté à certaines catégories d'âge.
Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai présenté dans un festival et il y avait un petit gamin qui y jouait. Et bon, je pense qu'il aimait bien parce que les graphismes sont assez enfantins, donc c'est vrai que c'est mignon tout ça. C'est vrai qu'en termes d'humour, je dirais qu'il faudrait au moins des ados, quoi. Je pense qu'à partir de 14 ans, voilà, quelque chose comme ça. Il y a rien de choquant, mais il y a un peu de grossièreté. Très peu, hein, c'est pas non plus un truc hyper vulgaire, mais c'est vrai qu'il y a de l'humour sur, voilà, il y a une cliente alcoolique dans un bar PMU, bon, c'est pas des trucs que je mettrais forcément aux petits-enfants, quoi. Voilà.
Ben, merci beaucoup, moi je te souhaite le meilleur pour ton jeu, félicitations, parce qu'on imagine la montagne que ça a dû être, ouais. Et vraiment tu dois être fier, donc toutes mes félicitations.
Ben, merci.
Et,